les saints. On voit bien qu'à partir de la Réforme, il y a eu cette attitude d'écarter de l'Église de la Réforme, les saints, pour qu'il n'y ait que Jésus et les grands prophètes qui annoncent Jésus. Tandis que l'Église catholique a toujours maintenu ce culte des saints, non pas l'adoration des saints, on n'adore que Jésus, on n'adore que Dieu, mais le culte des saints. Le culte des saints, c'est reconnaître qu'ils sont pour nous des témoins de Jésus et des amis de Jésus. Et le culte des saints consiste à les honorer comme des amis de Jésus, et aussi comme ceux qui peuvent intercéder pour nous. C'est intéressant de regarder cette réaction de la Réforme et l'attitude de l'Église catholique en face de la Réforme qui a maintenu le culte des saints. La Réforme veut écarter tous les saints de peur qu'il y ait comme une sorte d'idolâtrie, qu'il y ait comme une sorte d'amour trop grand des saints, un culte trop grand des saints qui voile un peu l'attitude qu'on aurait spontanément ou l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de Jésus. Donc on écarte les saints pour mettre plus en lumière Jésus. Dans l'Église catholique, on fait l'inverse. On aime les saints, on maintient le culte des saints pour honorer Jésus. Profondément, il y aurait des attitudes qu'on retrouve un peu partout, cela. Ceux qui, au plan philosophique, aiment de regarder une dépendance immédiate de tout, de toutes les personnes, à l'égard du Créateur, à l'égard de Dieu Père. On pousse le plus que possible la dépendance. On va le plus loin possible pour affirmer la dépendance, pour exalter le Créateur. Tandis que l'autre attitude consiste à voir la grandeur de l'œuvre du Créateur et de voir que le Créateur est capable de poser des sources de vie, des sources d'amour, des sources de lumière. Et en montrant cela, on exalte la puissance du Créateur. Donc, il y a là deux attitudes très différentes. L'attitude de ceux qui écartent tout ce qui pourrait, tant soit peu, mettre un peu d'ombre à l'égard de Dieu Créateur ou à l'égard de Jésus Rédempteur. On fait un peu le vide pour mieux manifester la source. Et cette autre attitude qui consiste à voir que la source, le Créateur, Jésus Rédempteur, est capable non seulement de nous sauver, mais aussi de faire de nous des co-rédempteurs, de nous prendre pour être des associés à son œuvre, donc d'insister sur le caractère de l'amitié. Dans l'amitié, on ne regarde plus la rivalité. Les amis manifestent la grandeur de l'ami et ne sont pas là pour faire de l'ombre sur l'ami. C'est lorsqu'on est en face de rival et non pas d'ami que le rival peut toujours mettre un tout petit peu d'ombre à celui dont il dépend, et dont il dépend d'une manière telle qu'il peut devenir un rival. Et à ce moment-là, à la place d'être un témoin, d'être un ami, il est quelque chose qu'on doit écarter pour mettre en pleine lumière celui dont il dépend. L'Église catholique a donc eu cette attitude de l'amour, qui est, je crois, l'attitude de la grande révélation du Christ. Dans l'amour, on exalte l'ami en proclamant qu'on est son ami et en reconnaissant qu'on a tout reçu de lui. Les saints sont les amis de Jésus. Et les saints proclament qu'ils ont tout reçu de lui. Et donc, ils ne sont pas des rivaux. Jamais un saint ne s'oppose comme rival du Christ. Le saint, au contraire, reconnaît qu'il a tout reçu de lui. C'est toujours la parole de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et en diminuant, il grandit, puisqu'il permet à l'amour du Christ de tout prendre en lui. Ça, c'est l'attitude de l'amour, et c'est l'attitude de l'amitié. L'Église catholique, en maintenant les saints, proclame ce primat de l'amour d'amitié dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance est une alliance d'amour et d'amour d'amitié. Et c'est pour cela que l'Église catholique aime de proclamer les saints, les amis du Christ, ceux qui ont tout reçu de lui, ceux qui sont des serviteurs fidèles, qui s'effacent en face du Christ, mais reçoivent de Jésus tout son amour, d'une manière telle qu'ils deviennent eux aussi des sources merveilleuses d'amour. Tous les saints ont été des sources d'amour. Et en étant des sources d'amour, les saints n'ont pas du tout été ceux qui voilaient le Christ, mais ceux qui, au contraire, le proclamaient et l'annonçaient. Je crois que c'est ça qu'il faut tout de suite comprendre quand on parle des saints. L'Église catholique a maintenu les saints pour nous montrer comment, à travers tout son pèlerinage terrestre, on voyait ceux qui étaient reliés à Jésus d'une manière particulièrement authentique, particulièrement vraie. Ceux qui, de fait, ont connu une proximité très particulière avec Jésus. Non seulement ceux qui ont connu la proximité terrestre, selon le temps et le lieu, nous y reviendrons tout à l'heure, sont les premiers saints qui entourent Jésus, mais ceux qui ont connu une proximité invisible, mystique, dans la foi, l'espérance et l'amour, et qui ont connu d'une manière tout intérieure Jésus, dans leur vie profonde, théologale, sous le souffle de l'Esprit-Saint et en dépendance de l'Esprit-Saint, qui ont eu ces expériences intérieures profondes avec Jésus et qui ont proclamé combien Jésus était tout pour eux. Pour moi, vivre, c'est Jésus. Et je crois que tous les saints disent ça, cette parole de saint Paul. Pour moi, vivre, c'est Jésus. Tous les saints vivent cette expérience très profonde que Jésus, progressivement, a tout pris en eux. Ils le vivent dans la foi, et quelquefois dans les tourments et les obscurités très grandes de la foi. On pense à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, dans les grandes épreuves qu'elle a connues, dans les dernières périodes de sa vie. Et ces épreuves faisaient que la petite Thérèse avait l'impression d'être comme écartée. Catherine de Sienne dira qu'elle accepte d'être comme un anathème à l'égard de Jésus pour ses frères. Donc, c'est pas une présence sensible, c'est une présence vécue dans la foi, l'espérance et l'amour qui peut connaître certaines expériences de très grande joie de très grande paix, mais qui peut aussi être vécu dans une foi très obscure, où la lutte peut faire croire, psychologiquement parlant, à des séparations. Peu importe, il s'agit d'une présence mystique, intérieure avant tout. C'est cela, les saints sont des témoins vivants. Ce sont ceux qui vivent de l'invisible comme s'il était visible. Ce sont ceux qui ont cette expérience avec Jésus glorieux, avec Jésus crucifié, avec Jésus dans toutes les étapes de sa vie, qui ont eu ces expériences-là et qui la proclament, et qui la disent, et qui n'hésitent pas de la dire, tellement cette expérience est imprimée profondément en eux. Les saints, ce sont donc les témoins vivants, ceux qui se sont assimilés la parole de Jésus d'une manière telle que cette parole de Jésus est devenue presque leur parole. Tellement Jésus est présent en eux, tellement Jésus est avec eux, tellement Jésus vit avec eux et eux vivent avec Jésus. Ils demeurent auprès de Jésus et Jésus demeure en eux. Et donc la parole de Jésus devient leur parole. L'Eucharistie devient leur nourriture, devient le pain véritable qui leur permet d'aller jusqu'au bout du don, qui permet cette transformation profonde de leur cœur dans le cœur du Christ. Témoins vivants, vivant dans cette unité avec Jésus, et étant là pour le manifester aux hommes de leur époque. Ils montrent le Christ. Ils s'effacent devant lui. Parce qu'ils ne veulent pas que ceux qui sont autour d'eux, les hommes qui les admirent, les hommes qui les voient, s'arrêtent à eux. En véritable témoin, ils désirent être uniquement là pour indiquer cette présence invisible de Jésus, pour indiquer que Jésus est toujours là. C'est pourquoi l'Église, en maintenant les saints, maintient comme une nuée d'hommes, de femmes, même quelquefois d'enfants, une nuée visible pour éclairer, pour montrer que le Christ est toujours présent dans son Église, que le Christ continue, bien qu'il soit auprès du Père dans la gloire, il continue de gouverner son Église. Il continue de lui montrer le chemin et la route. Il est là, présent, à travers ceux qu'il a choisis pour être ses saints, pour être ses témoins, pour être ses envoyés. C'est très grand cette présence des saints dans l'Église. Et l'Église canonise ces hommes après leur mort, comme dit d'une manière humoristique Blois. On est saint qu'après sa mort, ce qui est très juste. Et ça, c'est la prudence de l'Église. Le peuple de Dieu, quelquefois, du vivant des saints, proclame qu'ils sont des saints. On sait très bien, à toute époque, il y a eu des saints comme ça, que le peuple de Dieu a proclamé comme saints. Du vivant de la petite Marthe, Robin, on l'a proclamé, tous ceux qui la connaissaient, comme sainte. On le faisait avec discrétion, parce qu'on sait que l'Église n'aime pas qu'on proclame saints ceux qui sont encore sur la terre. Et l'Église n'aime pas parce que tant qu'on est sur la terre, on lutte, on chemine, et les saints demeurent cachés. Ils proclament la présence de Dieu et en même temps ils demeurent cachés et dans leur humilité, ils n'aiment pas qu'on les proclame saints parce qu'ils se savent pécheurs et ils savent très bien qu'ils peuvent encore pécher. Le peuple de Dieu proclame saints ceux qu'il considère comme mus d'une manière très particulière par l'Esprit Saint. Ceux qui, sous le souffle de l'Esprit Saint, prophétisent, font des miracles. Toujours, la prophétie et le miracle demeurent comme des signes qui montrent la sainteté. Ce n'est pas la sainteté, mais comme des signes qui indiquent la sainteté. Et le peuple de Dieu, les hommes, sont toujours très frappés par cela. Et ils aiment de proclamer saints ceux qui, justement, font des miracles de la part de Jésus. Ceux qui guérissent les malades, les infirmes, qu'ils les libèrent de leurs maux. Ces saints ne sont proclamés par l'Église comme saints qu'après leur mort. Et quand l'Église proclame quelqu'un comme saint, et quand l'Église recommande le culte à l'égard de ces saints, de les honorer, de les prier, l'Église, par le souverain pontife, opère un acte d'une très grande grandeur. Le pape engage son infaillibilité quand il proclame un saint. Et donc on n'a pas le droit de ne pas être attentif à ces saints que le pape proclame, parce que ce sont pour nous comme des lumières au milieu de la nuit, des petites lumières qui indiquent la route. Et là, je crois qu'on touche quelque chose de très important. Si on est attentif au pape actuel, on voit combien le pape actuel aime de proclamer saints tous ceux qui ont eu une vie très donnée et très dépendante de l'Esprit Saint, et tout uni à Jésus, tout uni à Marie. Le pape aime de proclamer ces saints parce que nous vivons une période difficile, une période dure, où la lutte est particulièrement forte. Alors, on aime de proclamer ces saints pour que les chrétiens aient des modèles qu'ils puissent regarder, surtout lorsqu'il s'agit de saints qui ont vécu tout proche d'eux. Quand il s'agit des saints de notre siècle ou de la fin du siècle précédent, alors on est tout proche et on voit que la sainteté demeure toujours l'apanage de l'Église, qu'elle est toujours présente, la sainteté. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, elle est au-delà des époques, elle est au-delà du conditionnement humain, elle est au-delà de ce que représentent les cultures. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans un homme. Et l'Esprit Saint, communiquant l'amour et communiquant la plénitude de l'amour dans les saints, font que ces hommes et ces femmes apparaissent dans une grandeur et une dignité unique. Et cela nous aide à continuer notre route et de comprendre que la sainteté n'est pas réservée au Moyen-Âge, n'est pas réservée aux premiers chrétiens. La sainteté, elle est toujours actuelle et que tout chrétien est appelé la sainteté. Les saints, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont ceux qui ont lutté avant nous et pour nous. C'est grâce à eux si la tradition dans l'Église s'est maintenue. C'est grâce à eux si, de fait, le mystère de la parole de Jésus demeure quelque chose de vivant pour nous. Il y a là, je crois, un aspect très important pour nous dans notre époque. De regarder les saints comme ceux qui nous donnent la tradition, la manière de garder la parole de Dieu, la manière de comprendre la parole de Dieu. Les saints sont toujours pour nous la bonne terre en qui la parole de Dieu a porté tous ses fruits. Les saints ont une intelligence de la parole de Dieu très particulière. qu'ils la comprennent quelquefois bien mieux que les théologiens, que les exégètes. Ils la comprennent quelquefois avec une pénétration toute d'amour, qui découvre dans la parole de Dieu ce qu'il y a de tout à fait propre à la parole de Dieu. Une parole qui inspire l'amour, une parole qui conduit à l'amour. C'est ça qui intéresse les saints. Je connais un exégète qui disait qu'un bon exégète devrait tenir compte de la manière dont tous les saints ont compris la parole de Dieu, y compris la petite Thérèse de l'enfant Jésus, y compris la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. La manière dont ils ont reçu la parole de Dieu et dont ils l'ont comprise, dont la parole de Dieu a fructifié en eux. Alors là, on comprend tout un aspect très important des saints, parce qu'ils sont pour nous ce contact plus immédiat avec la parole de Dieu gardée dans la tradition. La tradition s'achève dans le cœur des saints. Et quand un saint meurt, il y a quelque chose qui s'arrête. Il invite un autre qui prend la relève, heureusement. Et la tradition est vivante dans l'Église, grâce au cœur des saints, grâce à ce mystère de la bonne terre qui garde la parole de Dieu et qui la garde d'une manière vivante, comme une parole qui peut porter tous ses fruits et aller jusqu'au bout de toutes ses exigences. C'est pour ça qu'il me semble que les saints sont pour nous, dans les luttes que nous pouvons avoir, aussi bien du côté intellectuel, surtout du côté intellectuel, que du côté pratique, les saints sont pour nous toujours des lumières, des phares qui éclairent la nuit. Et quand la nuit est particulièrement noire, on a besoin de s'appuyer sur ces saints pour mieux saisir comment ils se sont nourris de la parole de Dieu, comment ils ont mangé le petit livre. Et ils ont compris la profondeur de la parole de Dieu et la signification si intime et si personnelle de la parole de Dieu. Dans les pays de montagne, ça m'a toujours beaucoup amusé de voir ça. Dans les pays de montagne, les petites routes, les pays de montagne, avant l'hiver, les routes sont comme ponctué par des grands bâtons, des poteaux, des piquets, quelquefois assez élevés, pour que, quand la neige tombera, on sache où est la route. Puisque la neige risque de tout niveler. Il y a certains moments, on ne verrait plus où est la route. Et le chasse-neige risquerait, à ce moment-là, de tomber lui-même dans des crevasses ou dans des trous, de quitter la route. Je crois que c'est très significatif, cela. Des moments de crise, tout est nivelé. On ne voit plus où est la route. On ne voit plus où est la voie. Jésus qui est la voie. Jésus qui est la voie par sa parole. Je dirais que les saints sont comme ces tuteurs, ces piquets qui indiquent la voie. Et qui nous empêchent alors de tomber dans des fausses pistes, de dérailler. Qui nous permettent d'être le chasse-neige, pour indiquer aux fidèles la route qu'il faut suivre, la route fidèle. Les saints sont là, comme des poteaux indicateurs, pour nous montrer la véritable voie, la manière de suivre Jésus. la manière dont ils ont vécu de la parole de Dieu au plus intime de leur cœur, de la manière dont ils l'ont comprise, comment ils l'ont mise en pratique dans leur vie. Les saints sont faits pour cela. Ce sont les frères aînés qui ont reçu eux-mêmes la tradition, qui l'ont vécu pleinement, pleinement assimilée, et souvent qui l'ont explicité encore plus. Et ils sont là pour nous indiquer la route. Ils nous sont là pour nous montrer comment nous pouvons rester fidèles et comment nous devons rester fidèles. C'est pour ça qu'on a tellement besoin des saints. Ils sont comme les miroirs pour nous du mystère de Jésus, du mystère de Marie. Ils sont comme les miroirs pour nous du mystère de la très sainte Trinité. Et ils sont là pour nous indiquer la route et nous aider à ne pas perdre la vraie voie qu'il faut suivre. De fait, dans ces différentes causeries que nous ferons sur les saints, nous avons voulu choisir d'abord le saint précurseur qui annonce Jésus, Jean-Baptiste. C'est tellement important. Si les grands prêtres, si le Sanhédrin avaient été écoutés Jean-Baptiste, ils auraient peut-être été mieux informés sur Jésus. Et dans leur cœur, il y aurait peut-être eu une petite lumière. S'ils étaient venus écouter cet homme si curieux, ce charismatique du désert qui annonçait la venue de celui qui devait venir. Eh bien, je crois que Jean-Baptiste est toujours pour nous un précurseur. Et c'est pour ça que c'est toujours bon de l'entendre. Il est celui qui annonce ce qui doit venir pour nous, ce qui doit venir, c'est le retour du Christ. Et Jean-Baptiste nous apprend à vivre de cette attitude fondamentale, qui est l'attitude de tout chrétien, attendre le retour du Christ. Ne pas s'arrêter à ce qu'on possède. Il y a une espèce d'antithèse entre l'attitude pharisaïque et l'attitude de Jean-Baptiste. Et je crois qu'à ce point de vue-là, c'est toujours important pour nous. Jean-Baptiste est le pauvre. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Le pharisien, c'est celui qui possède. C'est celui qui sait qu'il possède. Il possède la vérité, il le sait. Et il n'accepte pas qu'il y ait quelque chose qui change en dehors de ce que lui possède. Il est celui qui veut être la mesure de tous ceux qui viennent derrière lui. En nous, il y a toujours un pharisien, toujours, qui veille. Si on n'est pas très attentif. Et puis, il y a un Jean-Baptiste. Notre grâce chrétienne fait de nous des Jean-Baptistes. Eh bien, Jean-Baptiste nous apprend à développer en nous cette espérance de pauvre. Attendre le retour du Christ. Voir dans le monde d'aujourd'hui tous les signes qui nous indiquent le retour du Christ. C'est grand, cette attitude de Jean-Baptiste. Être la voix de celui qui crie dans le désert. Et par le fait même, nous dépouiller de plus en plus de tout pharisaïsme qui nous guette toujours. Dans les moments de crise, le pharisaïsme consiste à vouloir rester absolument immobile pour garder l'avoir, le patrimoine. et surtout n'acceptez aucune réforme. C'est trop dangereux, c'est trop risqué. Alors on veut rester pleinement celui qu'il possède. Je n'insiste pas plus, mais voyez l'importance de Jean-Baptiste, c'est toujours actuel. On a choisi Joseph. Joseph, c'est le père, c'est l'époux de Marie. C'est une sainteté très intime, Joseph. C'est une sainteté merveilleuse, si humaine et si divine. C'est peut-être le saint le plus humain et le plus divin. C'est très extraordinaire, Saint Joseph. C'est le saint du travail. Du travail bien fait, le menuisier, l'artisan. C'est le saint qui travaille pour Jésus, pour Marie, pour gagner le pain quotidien. Joseph, c'est celui aussi qui a beaucoup aimé et qui nous montre comment l'amour humain peut être complètement transformé dans un amour tout à fait divin. L'amour qu'il a pour Marie est un amour humain. Il a choisi Marie, il l'aime comme un véritable époux. Et son amour pour Marie va être complètement transformé par la grâce, divinisé, d'une façon merveilleuse, d'une façon très unique. Voyez la tendresse du cœur de Joseph pour Marie, cet époux qui est le modèle de tous les époux. Tellement il aime et tellement il respecte Marie dans son amour. Et tellement il est proche d'elle. Comment il a su recevoir son secret et ne pas gêner Marie dans le don total de tout elle-même à Dieu. Et puis Joseph, c'est le père de Jésus. Il nous montre le sens de la paternité, au sens le plus fort, je dirais la pauvreté même de Joseph, du fait même que Marie est vierge et qu'elle est mère d'une façon miraculeuse, sous l'action de l'Esprit Saint, fait que Joseph n'a pas connu de relation d'époux à l'égard de Marie. Marie a été enceinte avant d'habiter avec Joseph, sous l'action de l'Esprit Saint. Et Joseph a accepté cette pauvreté lorsque Dieu lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il soit l'époux, d'une façon plénière, mais d'une façon très spirituelle et très divine, dans toute sa sensibilité, dans tout lui-même, en acceptant cette pauvreté à l'égard du point de vue sexuel. Comme Joseph est grand pour notre monde d'aujourd'hui, parce qu'il nous fait comprendre que la grandeur de l'amour d'amitié, elle est divine, elle est spirituelle, dans notre affectivité volontaire et spirituelle. Elle implique ce choix, elle est sensible, elle est passionnelle, mais elle respecte infiniment ce grand mystère de la virginité de Marie. C'est très grand cela. Joseph nous fait comprendre d'une manière très étonnante la force de l'amour humain, de l'amour d'amitié, de l'amour spirituel, transformé par la grâce. Il nous fait comprendre la grandeur du travail. C'est l'époux et le travailleur. Et c'est le père qui éduque. dans la pauvreté. C'est pour ça que Joseph reste indispensable dans toute vie chrétienne pour sanctifier le milieu le plus immédiat dans lequel on se trouve. Joseph est modèle pour les familles, Joseph est modèle pour la communauté religieuse. Et parce qu'il nous fait comprendre la manière dont on peut sanctifier nos relations les plus humaines, les plus profondément humaines, jusqu'à notre travail. Quant à Pierre, Jean et Marie-Madeleine, on a choisi exprès ces trois grands disciples de Jésus. Vous voyez, Jean-Baptiste et Joseph, ils annoncent. Jean, Pierre, Marie-Madeleine, ils sont des témoins, des amis. Ils ont été choisis. Pierre a été choisi. Jean a été choisi. Et Marie, Madeleine, c'est la grande convertie. Celle qui était la femme pécheresse. Et Jésus a chassé les sept démons qui la tenaient. Et Jésus en a fait quelqu'un qui l'a aimé. Et quelqu'un qui s'est attaché à lui d'une façon si forte. C'est pour ça que Marie-Madeleine montre comment on peut être passionné de devenir un saint. Et à ce point de vue-là, elle reste toujours pour nous un très grand modèle. Marie-Madeleine nous apprend à accepter les purifications affectives, ce qui n'est pas commun du tout. Elle est la patronne de la purification de toute notre affectivité sensible. Elle est la patronne de tous les convertis. Elle est celle qui fait comprendre aux convertis cette sainteté particulière de ceux qui, ayant beaucoup péché, ont cependant beaucoup aimé et ont beaucoup pleuré leurs fautes. Marie-Madeleine, elle est témoin de la croix. Et elle est celle qui va recevoir le jour de Pâques ces grandes purifications de la part de Jésus pour devenir capable de découvrir la présence de Jésus glorifié, ressuscité. Et Marie-Madeleine, la pécheresse convertie, si aimante et si aimée, va devenir l'apôtre des apôtres. Elle va réveiller les apôtres de leur torpeur, de leur tristesse, de leur fatigue, pour qu'ils soient présents au mystère de la résurrection. C'est très beau, ce rôle de cette femme. Il aurait fallu, nous ne l'avons pas fait, il aurait fallu montrer ces deux extrêmes. La femme par excellence, Marie, et Marie-Madeleine, la femme pécheresse, qui reçoit la miséricorde au plus intime de son cœur pour devenir la femme très aimante, fidèle, d'une manière très particulière. À côté de Marie-Madeleine, il y a Jean, et il y a Pierre. Les deux disciples que Marie-Madeleine a contactés en premier lieu, au petit matin de Pâques. C'est Jean qu'elle veut contacter, et Pierre est venu rejoindre Jean, et c'est Pierre et Jean qu'elle contacte, et c'est à Pierre et Jean qu'elle communique en premier lieu son message. Et Pierre et Jean sont bien les deux disciples les plus aimés et les plus aimants, d'une manière très différente, sans doute, puisque de fait, Jean est fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Jean le Benjamin, le plus aimé, le préféré, celui qui a connu une tendresse très particulière de Jésus à la scène, et peut-être dans d'autres moments. Ce qui est sûr, c'est que Jean a été saisi par le cœur de Jésus, et saisi de manière telle qu'il pourra être le témoin du coup de lance. Le grand témoin du coup de lance. C'est le premier ami du cœur blessé de Jésus. C'est le premier qui est attiré d'une manière très particulière par les blessures du cœur et qui en comprend toute la signification. Il en est le témoin. Jean, c'est donc le grand apôtre de l'amour, de la surabondance de l'amour, de la gratuité de l'amour. Pierre, c'est l'apôtre qui recevra de Jésus l'autorité. Pierre nous montre la manière dont, en étant disciple et recevant du Maître l'autorité pour continuer son œuvre, Pierre nous montre comment on peut sanctifier l'autorité quand Dieu nous demande de l'exercer. Ce n'est pas commode. Et je crois que si Dieu a permis que Pierre renie au moment où Jésus est condamné, que Pierre a peur et qu'il cède au ricanement de la servante, si Dieu a permis cela, c'est pour que Pierre exerce son autorité d'une manière humble, d'une manière pauvre, sans jamais transformer son autorité en un pouvoir de domination. Pierre exerce une autorité très grande. Les papes sont successeurs de Pierre. Et l'autorité du pape représente l'autorité suprême dans l'Église. Et je crois qu'on peut dire la plus grande autorité parmi tous les hommes. La plus grande autorité morale, pas le plus grand pouvoir, mais la plus grande autorité. Notre pape, aujourd'hui, représente bien la plus grande autorité dans le monde entier. Parce que c'est celui qui connaît le mieux ce pourquoi l'homme est fait, et qui l'indique de la manière la plus forte. C'est celui qui aime le plus les hommes et qui les conduit le mieux vers leur bonheur. Le pape actuel et le premier pape, Pierre, sont assez proches. C'est même très curieux. Il y a des comparaisons intéressantes à faire. On ne les fait pas. Il faut laisser beaucoup de choses à creuser. Et c'est sûr que l'autorité de Jean, que la sainteté de Jean, une sainteté qui se passe dans la gratuité, et la sainteté de Pierre est une sainteté qui assume l'autorité. Après avoir vu ces cinq premiers qui sont tout proches de Jésus, qui touchent, tous ont touché Jésus, l'ont ou annoncé, ou vécu dans l'intimité avec lui, ou ont été disciples, fidèles. et qui ont tout donné pour Jésus. Il est bon ensuite de considérer à travers l'Église quelques grands témoins. On aurait pu faire un autre choix. J'avais hésité de prendre les premiers saints martyrs. On aurait eu Étienne. Et c'est vrai, les premiers saints martyrs ont quelque chose de très particulier et de très unique. De fait, tous les saints que j'ai vus, aucun n'est martyr au sens précis du mot, sauf Pierre. Mais ceux qui suivent Jésus, Pierre et Jean-Baptiste, deux très grands martyrs, mais ceux qui suivent Jésus, je n'ai pas pris de martyr. J'ai pris des saints qui me paraissaient particulièrement importants en fonction de la lumière qu'ils donnaient et du témoignage qu'ils donnaient. Saint Benoît, le grand témoin de la vie monastique et donc du martyr intérieur, puisque la vie monastique prend le relais du martyr visible et sanglant. C'est le martyr que Marie a connu à la croix, un martyr tout intérieur, un martyr de fidélité. Saint Benoît, qui est le père de la vie monastique en Occident, Saint Basile en Orient, Saint Benoît nous montre d'une manière très particulière, de manière très sobre et très belle, très simple, ce qu'est la véritable sainteté du moine. Cette sainteté est fondée dans l'humilité. Et cette sainteté est vécue dans l'intensité du désir. C'est le désir de voir Dieu. C'est le désir de connaître Dieu qui fait la sainteté du moine. Proche de Saint Benoît et très différent de lui, j'ai voulu montrer Saint François d'Assise, la sainteté du pauvre. C'est plus la vie monastique, c'est celui qui a compris que le Christ était tout. Il est le fou du Christ, le fou d'amour du Christ. Il se dépouille de tout pour que Jésus soit présent en lui. C'est l'extrême pauvreté, l'extrême dépouillement. C'est ça qui caractérise Saint François, et ça fait toujours partie d'une dimension essentielle de la sainteté. Saint Benoît, au contraire, c'est la discrétion, ce qui fait partie aussi toujours d'une partie essentielle de la sainteté, c'est le don de conseil, qui donne cette douceur et qui permet de tout ramener à Dieu dans une harmonie et une très grande douceur. Saint François, ce n'est pas la douceur qui domine, c'est l'arrachement de lui-même pour laisser toute la place à Jésus. C'est le pauvre qui pleure parce que l'amour n'est pas aimé. Et c'est ça qui caractérise cette pauvreté de Saint François. À côté de Saint François, est très différent de sa sainteté, celle d'un Thomas d'Aquin. C'est une sainteté de lumière, de la lumière de l'intelligence au service de la lumière de la foi. C'est une sainteté de sagesse à la fois acquise et infuse. C'est celui qui regarde Dieu, qui regarde Jésus crucifié, comme François. Thomas d'Aquin n'est pas stigmatisé. François d'Assise regarde tellement Jésus crucifié que Jésus crucifié l'attire à lui et le marque dans ses mains et ses pieds, sur sa tête, sur son cœur, les stigmates. Thomas d'Aquin n'est pas stigmatisé. Mais il vit du mystère de la croix et de la sagesse de la croix au plus intime de son intelligence. C'est son intelligence qui est totalement donnée. C'est le travailleur qui donne toute son intelligence au service de la parole de Dieu pour montrer toute la richesse de la parole de Dieu, toute la grandeur de la parole de Dieu. Il y a un lien très mystérieux entre Thomas d'Aquin et Saint Jean, qui serait très intéressant à bien regarder. Mais ce sont des saints silencieux dans leur don de leur intelligence et de leur cœur. Ensuite, nous avons regardé Catherine de Sienne et Saint Jean de la Croix. Deux saints qui ont, eux aussi, à leur manière, tout à fait différents de Thomas d'Aquin, tout à fait différents de François d'Assise, mais deux saints qui ont eu le sens très très profond du cœur de Jésus. Catherine de Sienne, Jésus lui fait ce privilège des changements des cœurs. C'est charismatique, c'est sûr, pour exprimer la réalité encore beaucoup plus profonde qui existe entre le cœur de Catherine et le cœur de Jésus. Cette unité si grande de feu qui fait que tout le cœur de Catherine est brûlé par le cœur de Jésus. Et Saint Jean de la Croix, dans son grand poème Les Flammes d'amour, montre bien combien son cœur est entièrement brûlé, lui aussi, par le cœur de l'agneau. C'est un Jean de la croix, la sagesse de la croix, la brûlure de la croix. Ensuite, nous avons pris la petite Thérèse, parce que c'est impossible aujourd'hui de ne pas parler de la petite Thérèse de l'enfant Jésus, qui nous montre comment cette sainteté de ces saints héroïques, de ces saints si grands, Thomas d'Aquin, François d'Assise, Catherine de Sienne, Jean de la Croix, Benoît, ils ont une taille énorme. La petite Thérèse montre comment, dans une taille humainement beaucoup plus fragile, beaucoup plus faible, beaucoup plus petite, Dieu peut forger une sainteté aussi grande. La petite Thérèse, elle est victime d'amour, tout proche du cœur de Jésus, tout proche du cœur de Marie. La petite voix qui est une voix royale, qui est la voix de la croix, qui est la voix de la souffrance, qui est la voix du don, qui est la voix du dépassement, amour à l'égard de Dieu et amour à l'égard du prochain. C'est ça que montre la petite Thérèse. Et à côté de la petite Thérèse, nous avons voulu montrer Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Évidemment, c'est bien avant la petite Thérèse. Mais c'est aussi la petite voix. C'est cela que Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort veut nous enseigner, que Marie nous est donnée. Et c'est ce don extraordinaire de Marie, fait à la croix, qui a émerveillé Saint-Louis-Marie. Ça l'a saisi. C'est le grand trésor que Jésus nous donne à la croix. Ça l'a saisi d'une façon telle qu'il a voulu tout reprendre à travers le cœur de Marie. Il nous montre comme une voie nouvelle à la sainteté. Une voie très cachée. Une voie qui nous échappe. Tellement elle est cachée. Mais qui est en même temps si grande et si rapide. Puisque c'est Marie elle-même qui est cette voie. C'est le trésor du cœur de Jésus qui est cette voie qui nous est donnée. Par là, nous découvrons comment, par le don de Marie, la sainteté est possible, même à des êtres qui ont de grandes faiblesses psychiques, psychologiques, de grandes faiblesses dans leur santé. La voie est possible, la sainteté est possible pour ceux du XXe siècle qui sont fragiles et qui connaissent mieux leur fragilité que n'importe qui. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, monte ces petits sentiers très petits qui exigent une grande petitesse, une grande humilité pour que l'amour de Dieu prenne tout. Il nous indique comment l'Esprit Saint, le Père des pauvres, creuse en nous et aime de creuser en nous ce total dépouillement pour laisser toute la place à Marie.